French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
Puis, si on n'avait pas été sélectionné, on était aussi en processus, nous, de recherche pour partir dans... pas forcément aux États-Unis, mais pour partir à l'étranger en expatriation. On a...
La joie.
On a eu beaucoup de joie. Sur le moment, c'est vrai que ça a été un moment de joie familiale. Je crois que c'est une de nos plus belles journées entre nous en tant que famille. C'est un voyage de prospection parce qu'en fait, avec la Green Card, on dépend pas d'une entreprise. Donc, on a ce choix génial de pouvoir choisir où on veut habiter.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode pendant lequel nous discutons avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Charlotte et je vous parle depuis Brooklyn, New York.
Notre invitée du jour nous parle depuis les États-Unis, mais l'endroit où elle se trouve n'est que provisoire. En effet, Jenna et sa famille sont arrivées depuis peu aux USA après un long parcours administratif. Ce parcours, c'est celui de la Green Card, le fameux sésame vert. Jenna et son mari ont joué à la loterie, sans vraiment s'imaginer qu'ils la gagneraient, ayant déjà joué quelques années auparavant sur l'obtenir. Quelle ne fut pas leur surprise, mais aussi leur joie, lorsqu'ils rentrent leur nom dans le logiciel et obtiennent le numéro leur permettant de poursuivre les démarches. Dans cet épisode, Jenna nous raconte les nombreuses démarches administratives, les papiers à remplir pour mener à bien ce long processus, mais aussi la préparation de leur expatriation et leur arrivée sur le territoire américain avec leurs deux petites filles. Une interview très intéressante que j'ai eu beaucoup de plaisir à mener. Belle écoute à tous.
Bonjour Jenna, merci d'être avec nous pour ce nouvel épisode de French Expat, le podcast.
Bonjour Charlotte, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui.
Merci d'avoir accepté de témoigner à notre micro.
Oui, c'est avec plaisir de partager notre expérience, puis c'est vrai que c'est bien d'avoir des parcours différents d'expat.
Tout à fait. Justement, en parlant de parcours différents d'expat, il me semble que vous n'êtes pas expatrié depuis très très longtemps.
On n'est pas expatrié, et en fait, nous, on n'est pas expatrié, on est immigré aux États-Unis.
Ah oui, il y a une différence.
Il y a une différence, nous, on vient pas avec un contrat d'expat, on vient pas par une entreprise, on vient par la loterie américaine, la DV Loterie.
D'accord, vous avez gagné à la loterie.
Exactement.
Et vous avez joué en quelle année pour gagner cette fameuse carte verte?
On a joué en octobre 2017.
Ah, deux ans en arrière.
Il y a 2 ans en arrière et en fait, le processus est très long. On participe en octobre de l'année.
Oui.
Et les résultats sont en mai de l'année suivante.
D'accord.
Et une fois qu'on a les résultats, il y a à peu près un an de procédure administrative avant d'obtenir la Green Card.
D'accord. Donc du coup, octobre 2017, vous participez. Le tirage au sort se fait en mai 2018.
C'est ça.
Et là, on vous annonce que vous êtes sélectionné. Comment ça se passe ?
En fait, on nous annonce rien. C'est à nous d'aller voir avec nos codes de connexion sur le site du gouvernement officiel.
D'accord.
On rentre les codes et on voit si c'est marqué non, vous n'avez pas été sélectionné ou you have been randomly selected. Et
okay.
Là, il y a une lettre du gouvernement qui explique toute la procédure qui va suivre après.
D'accord. Et alors, cette procédure, vous l'avez entamée à deux avec ton époux?
Oui, c'est ça, avec mon mari.
Avec ton mari. Et c'était un choix dès le départ. Vous vouliez vraiment venir aux États-Unis ou vous avez joué en vous disant « bon, de toute façon, on a une toute petite chance, donc on tente, mais on sera jamais sélectionné ».
Alors, ça faisait longtemps qu'on cherchait à partir à l'étranger. On avait déjà regardé en tant qu'étudiant pour faire des échanges universitaires ou ensuite avec un VIE. On a été parents assez jeunes au cours de nos études, donc ce qui fait que ça a remis un peu les choses en question et puis ça a repoussé ce départ-là.
D'accord.
Et on avait participé une première fois à la loterie en 2013, mais vraiment pour le fun, pour dire ok, on joue. Et heureusement qu'on n'avait pas été sélectionnés à ce moment-là parce qu'on n'aurait jamais pu suivre tout l'administratif et le coût financier que ça impose après.
Parce que oui, on en parlera, mais il y a un coût financier.
Oui, c'est gratuit de participer, mais c'est pas gratuit de l'obtenir.
D'accord.
Mais et ensuite, on a continué à avoir cette idée-là de partir à l'étranger, d'avoir cette expérience en famille, mais ça, on n'avait pas la stabilité financière et professionnelle pour le faire. Donc du coup, c'est vrai qu'on a reparticipé à la loterie sans vraiment y croire, et en fait, qu'on a été sélectionné, ça a été un vrai, c'était un choc de
Une surprise.
Ça marche pour de vrai.
Ah oui. Parce que est-ce que tu connais les chiffres par hasard? Est-ce que tu sais combien de personnes sont sélectionnées par an?
Il y a à peu près 2 millions de personnes dans le monde qui participent. Il y a 150 000 personnes qui sont tirées au sort. Et il y a 50 000 green cards qui sont attribués au final par an.
Ok.
Donc c'est vrai que ça fait pas beaucoup en fait.
Ça écrème énormément.
Ça écrème énormément. Par contre, il y a des quotas par pays. Donc il y a certains pays qui ont, en fait, ça dépend du quota de l'année précédente d'immigration américaine, et ils font des quotas. Par exemple, le Mexique, la Chine, l'Inde, clairement, ils ont quasiment pas de quotas. Les pays arabes, en ce moment, c'est compliqué également. Mais par contre, du coup, ça donne plus de chances pour nous en tant qu'Européens.
On D'accord. Plus de chances. Tu veux dire que dès le départ, le gouvernement américain va dire, on ne voudra prendre que 10 000 Indiens, 20 000 Mexicains et beaucoup plus pour l'Europe.
C'est ça. Ouais, il y a un pourcentage de tirage au sort par pays, en fait.
D'accord. Qui est déjà préétabli.
Ouais, qui est préétabli. C'est un tirage au sort, mais il y a des quotas par pays et il y a également des critères. Il faut être majeur, il faut avoir 18 ans. Mm-hmm. Il faut avoir l'équivalent du baccalauréat ou 5 ans d'expérience professionnelle.
Et d'accord.
Après, il y a juste un critère de photo qui est assez éliminatoire au départ, s'il faut une photo bien avec des paramètres bien spécifiques.
D'accord. Qui déjà vont éliminer si la photo n'est pas correcte
Exactement.
Au moment du tirage au sort.
Exactement.
Ah ouais, d'accord. Donc c'est pas si tirage au sort que ça finalement.
Oui.
Au départ.
Il y a quand même des petits critères à respecter, mais en fait, nous en tant qu'Européens, généralement,
clairement, on l'a presque
voilà,
tous.
C'est ça. Exactement.
D'accord. Donc du coup, votre réponse, vous êtes sélectionné en mai 2018, et là, passé l'effet de surprise, comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites? Ah ouais, va falloir qu'on mette en place tout le processus. Vous êtes un peu effrayé?
On a
la joie.
On a eu beaucoup de joie. Pour le moment, c'est vrai que ça a été un moment de joie familiale. Je crois que c'est une de nos plus belles journées entre nous en tant que famille, parce que on était là, les enfants étaient là quand on a redécouvert. En fait, on peut en tant que couple, on joue tous les deux. C'est-à-dire qu'on a tous les deux un numéro de tirage au sort.
Ouais, vous avez joué chacun.
C'est ça, chacun peut jouer.
D'accord.
Dans le couple. Et donc du coup, on a rentré mon numéro en premier qui était négatif. Donc c'était un peu
D'accord.
On s'y attendait. Et quand on a rentré le numéro de mon mari et qu'on a vu la lettre apparaître, il y a eu un moment de mais non, c'est pas possible. c'est pas pour de vrai. Et après ça a été une explosion de joie.
L'euphorie.
Ouais, l'euphorie. Et les enfants, ils nous ont regardés comme si on était devenus fous. Ils comprenaient pas. Mais oui, c'est vrai que c'est un beau moment.
Du coup, vos enfants, je reviens vite sur ce petit sujet. Oui. Vos enfants ont quel âge?
Elles ont 5 ans et 3 ans.
Donc elles ont compris qu'il se passait quelque chose.
Elles avaient 2 ans et 4 ans. La grande, elle a compris, il se passe quelque chose. La petite, elle nous a juste regardé comme si on était fous.
L'air de dire qu'est-ce qui se passe. Voilà.
Mais la grande, elle a compris et elle était au courant. On l'avait mis tout
D'accord.
au courant qu'on avait cette démarche.
Pour la préparer?
Pour la préparer, et puis aussi parce qu'on en discutait beaucoup entre nous, donc du coup, elle était présente lors des conversations, et puis qu'elle comprenne que on avait envie de partir à l'étranger, de voir autre chose et que on l'inclut en fait dans ce processus-là.
D'accord. Mais c'est très bien parce que du coup, même si vous n'étiez pas sélectionné et pour le coup vous l'avez été, donc c'est génial.
Voilà.
Mais au moins elle n'avait pas d'inquiétude face à l'avenir. Elle savait que potentiellement on pourrait un jour partir de la France
voilà.
et vivre autre chose.
Et puis si on n'avait pas été sélectionné, on était aussi en processus nous de recherche pour partir dans pas forcément aux États-Unis, mais pour partir à l'étranger en expatriation.
D'accord. Par le travail d'un de vous deux ?
Par le travail de mon mari, oui.
Ok. Donc du coup, mai 2018, ça y est, l'euphorie est passée.
Voilà.
Et maintenant, comme tu dis, place aux démarches.
On est dans... Il y a un gros dossier, le DS-260, à remplir. C'est un dossier administratif qui est très lourd, qui nous demande toutes nos adresses où on a résidé depuis qu'on est enfant, tous nos voyages à l'étranger, combien de fois on était aux États-Unis, le nombre de jours passés. Enfin, nos familles, ils nous demandent les adresses des frères et sœurs. Enfin, c'est un gros dossier où ils demandent les diplômes, tous les employeurs pour chaque membre de la famille.
Pour chaque membre, donc pour toi et ton mari,
pour moi et mon mari,
les parents et frères et sœurs.
Non, pour les enfants.
Ah oui.
Les enfants.
Ah d'accord.
En fait, à partir du moment que le mari est tiré au sort, toute la famille proche nucléaire reçoit la green card. Donc il faut remplir un dossier pour chaque personne qui va recevoir la green card.
Ah bien sûr. Bien sûr.
Et donc là, c'est posé la question. Nous, on est une famille recomposée. Donc mon mari a un fils, un premier mariage, et c'est posé la question de est-ce qu'on remplit un dossier pour son fils ou non. Ça, c'est vrai que c'était une longue discussion entre nous parce que son fils est assez jeune. Donc est-ce qu'on mettait ça en place ou pas pour lui également. Et finalement,
c'est
lourd comme démarche. Et puis c'est pas sûr d'aboutir en fait. Quand on remplit le dossier administratif, on est tiré au sort, mais on n'a pas la green card.
Il y a encore
plusieurs étapes à passer, et donc du coup, on voulait pas repartir dans des jugements, des choses comme ça. Donc, on n'a pas inclus son fils dans le dossier. Ça, c'était une première décision qui a été marquante pour nous en fait. Ok, on va partir, et en plus, y a ça qui se passe pour notre famille.
Alors vous avez la green card, tes filles aussi.
Oui.
Vos filles aussi. Ça n'empêche que le fils de ton mari pourra vous rendre visite avec un visa touriste.
Exactement.
Ça ne change rien.
Voilà, ça, il pourra venir avec un visa touriste. Par contre, s'il voulait venir vivre chez nous, il faudrait qu'on recommence un processus de sponsor de green card.
D'accord. Ok. Ça veut dire que avant qu'il soit majeur, si jamais il voulait venir vivre avec vous,
il faut qu'on fasse une demande pour lui. Il peut pas l'avoir d'office.
D'accord. Bon, très bien.
Voilà. Et ensuite, pendant un an, ça a été silence. On attend la convocation, la lettre de convocation.
Ah, une fois que vous avez rempli cet énorme dossier, et après, il n'y a plus rien qui se passe.
Il n'y a plus rien qui se passe parce qu'en fait, quand on est tiré au sort, on a un numéro. Nous, on avait un numéro 13 000 et quelques. Et donc, il faut attendre que ce numéro-là soit appelé à l'ambassade. Et il n'y a aucune nouvelle. C'est-à-dire que c'est pas eux qui nous envoient d'email, on n'a pas d'informations. C'est... silence radio pendant le temps qu'on soit appelé. Donc c'est vrai que...
Est-ce que ce numéro de 13 000, c'est votre place dans le classement
Exactement
de sélection?
C'est la place dans le classement de sélection. Et donc
En France ou dans le monde? D'accord.
Le monde. Et du coup, ça veut dire aussi que plus on a un numéro bas, plus vite on va être appelé. Plus on a un numéro
élevé,
plus tard on va être appelé. Et il y a certains numéros qui sont tellement élevés qu'ils ne seront jamais appelés avant que l'année soit
finie. C'est pas avant que les 50 000 places soient faites, c'est avant que l'année soit finie.
Voilà, c'est ça. L'année soit finie et également les 50 000 places. Il y a deux critères.
Parce que du coup, si vous êtes le numéro 77 000 et que les 50 000 premiers ont été sélectionnés, il n'y a pas de chance d'être appelé.
Exactement. Mais on est tombé dans l'année où il y a eu tout le shutdown du gouvernement. Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de retard dans le traitement des dossiers. Notre numéro, il devait être appelé aux alentours de janvier par rapport aux appels des années précédentes. Et on a été appelé...
Janvier 2019
exactement. Et on a été appelé en mai 2019.
Ah oui.
Ouais, ça a été très très long. En fait, on a été appelé le même jour que le jour des résultats. Ça, c'était assez beau comme signe du destin.
Ah oui. C'est un signe.
Et donc, du coup, une fois qu'on est appelé, on reçoit la lettre de convocation. On a de nouveau des dossiers administratifs à remplir et également tout un check-up médical. Donc, avec vaccin, radio, prise de sang. Et c'est là qu'on découvre qu'en fait, en France, on est bien loti par la sécurité sociale parce que là, c'est tous ces frais administratifs et médicaux, on doit les payer. Ce que d'habitude, on n'a pas l'habitude de payer en tant que Français, de payer les vaccins au prix fort, sans remboursement.
Ah, parce que là, c'est pas pris en charge par la Sécu.
C'est pas pris en charge du tout.
Parce qu'il faut aller vers un médecin agréé ou des hôpitaux spécialisés.
Alors, pour les vaccins, il faut des vaccins qui sont pas remboursés en France parce qu'ils sont pas obligatoires.
D'accord. Voilà.
Pour les radios.
Quel type de vaccin?
Par exemple, on nous a demandé de vacciner pour la varicelle. Mes filles avaient pas eu la varicelle, donc ils nous ont demandé de faire vacciner nos filles contre la varicelle.
C'est un vaccin. Je savais même pas qu'il y avait un vaccin pour la varicelle.
Ouais. Aussi, en fait, aux États-Unis, il est fait d'office aux enfants. Et en France, on leur laisse avoir la varicelle. Donc ça, c'est vrai que nous, c'est un vaccin qui coûte assez cher, donc par enfant. Et puis nous, ils nous ont demandé, par exemple, de rechercher les anticorps pour prouver qu'on avait eu la varicelle.
D'accord.
Ils recherchent bien sûr toutes les autres maladies, le VIH, les choses comme ça. Enfin, ils font un check-up médical vraiment très large. C'est ça que c'est payant. Et également, il y a une visite médicale avec un médecin agréé de l'ambassade à Paris.
D'accord. Ouais.
Et donc, une fois qu'on a... ça, c'est éliminatoire. Par exemple, si la visite médicale n'est pas validée ou il y a un problème, ça peut être éliminatoire pour l'entretien à l'ambassade.
Parce qu'un problème, quel qu'il soit, des anticorps qui ne seraient pas visibles tout de suite, c'est tout de suite éliminatoire ou il y a d'autres examens plus
poussés? Alors ça, j'aurais pas la réponse précise. Je sais qu'il y a certaines maladies qui sont éliminatoires.
Qui sont pas forcément contagieuses, mais si on l'a eu, on est éliminé dans le processus. Ouais.
Il me semble qu'il y avait la tuberculose, les choses comme ça. En fait, les maladies qui sont quand même transmissibles, en fait, si.
Ok.
Et donc, bien après, voilà.
Donc, du coup,
on prépare tout ce dossier-là et puis on va à l'ambassade. On avait rendez-vous à 8h30 le matin. Donc, on est
à Paris.
Et avant, on s'était renseigné. En fait, on a lu le livre de Géraldine qui s'appelle « Notre rêve américain ». Elle détaille, en fait, ils ont été sélectionnés à la Green Card dans le même processus que nous, il y a quelques années.
Et
donc, elle en a écrit un livre qui est absolument génial. Si vous voulez passer dans ce processus de loterie, il détaille toutes les étapes. Et donc,
on le notera sur le blog pour ceux qui seraient intéressés de le lire. Merci beaucoup.
Elle a écrit le livre du processus de la Green Card et après leur installation aux États-Unis. Et c'est une mine d'or, en fait, au niveau d'information. Elle a tout détaillé, les processus, les infos. Enfin, vraiment très bien. Et donc, du coup, à l'ambassade, on s'est attendu à ce que ça dure... Enfin, tout le monde nous avait dit ça va durer pendant des heures, vous allez attendre longtemps. Et les enfants doivent être là, en fait.
J'allais te poser la question.
Donc, ils doivent être présents.
Pour quelle raison? Parce qu'ils doivent donner leurs empreintes.
Ils ne prennent pas leurs empreintes digitales, parce que je crois qu'elles sont pas officielles avant un certain âge. Mais par contre, ils doivent être là. Tous les gens qui veulent recevoir la green card, ils doivent être présents le jour de l'entretien. Donc nous, on s'était préparé et on n'a pas le droit d'avoir d'écran, de jeu, de nourriture dans la salle.
Oui, je me souviens, pour notre visa, c'était pareil. On avait eu peur que ça dure tellement longtemps, on n'en pouvait plus.
Et du coup, on s'était attendu tout le monde nous avait dit, vous allez attendre 3-4 heures. Et en fait, en une demi-heure chrono, c'était réglé. On n'a même pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Ils nous ont fait rentrer la sécurité, ils nous ont refait payer, parce que c'est payant de passer le rendez-vous.
Ah, je me souviens plus de ça.
En tout cas, nous, pour la green card, on paye et c'est que ce soit oui ou non, c'est pas remboursable. On paye pour passer l'entretien et ensuite on donne tous les documents officiels et ils nous ont appelé 5 minutes après. On passe devant un monsieur qui pose quelques questions. On s'était attendu à des questions très poussées comme notre date de mariage, enfin pour voir si on était bien ensemble depuis longtemps et tout. Et en fait, non. Ils ont juste demandé où est-ce qu'on allait travailler, quel métier on allait faire. Et puis, félicitations.
Oh, génial. Mais alors du coup, quel métier faisiez-vous en France?
Alors moi, je fais du marketing digital. Donc moi, je suis en freelance.
D'accord.
Voilà. Et mon mari travaille dans les assurances. Il fait toutes les analyses, tous les chiffres.
Oui, donc vous pouvez travailler en fait un peu n'importe
où.
Enfin, et ton mari pourra trouver
Dans les chiffres. En fait, ils recherchent toujours ce genre de critères.
Ah, donc finalement, c'est un processus qui vous convenait parfaitement. Vous avez vraiment de la chance de l'obtenir et d'avoir accédé
On a eu la chance d'être tiré au sort. Après, ce qu'on dit toujours, c'est qu'on l'a provoqué, la chance. On a participé, on a fait toutes les démarches, on s'est bien renseigné pour bien répondre aux critères également.
Si on le fait un peu comme ça sans vraiment y croire, forcément il y a peu de chances que ça fonctionne. Vous avez vraiment fait attention à tout, vous vous êtes renseigné, vous êtes d'ailleurs fait aider par un avocat ou par un conseiller, quelqu'un qui peut aider à monter le dossier.
Je sais qu'il existe beaucoup d'agences d'entreprises qui aident potentiellement pour ce processus de loterie de green card.
D'immigration.
Souvent, c'est des arnaques. Ça c'est ouais, il y a souvent beaucoup d'agences en fait, c'est gratuit de participer à la loterie et ils font payer ça. Donc ouais.
D'accord.
Il y a du business à faire partout.
Ouais,
c'est ça. Donc non, c'est pas du tout fait aider. Par contre, le livre de Géraldine nous a beaucoup aidé pour bien pas qu'on oublie une étape, pas oublier un papier, choses comme ça.
Et ce livre, tu l'avais trouvé comment?
En fait, on suivait leur blog
d'accord.
Un blog qui est assez vieux maintenant, qui s'appelle Rêve de Green Card, où ils ont eu la Green Card en 2012, il me semble, ou 2013. Donc, lors de notre première participation, en fait.
Ah oui, ok. Donc ouais, vous êtes vraiment renseignés depuis très longtemps.
Ça fait longtemps qu'on voulait partir. C'est quelque chose, ça a été un projet...
Réfléchi,
c'est un projet de couple en fait qui nous a soudés depuis le départ.
D'accord. Hein. Pour en revenir à cette ce rendez-vous à l'ambassade, il vous dit le monsieur au guichet, à l'entretien, vous dit félicitations. Donc là, vous savez que c'est bon, vous avez la green card.
Non. On est accepté à la green card. Donc là, il prend nos passeports et pour y apposer un visa provisoire de 6 mois. Donc on a 6 mois pour passer la frontière américaine et déclencher l'émission de la green card. Donc, il n'y a que à partir du moment où, avec ce visa provisoire, on franchit la douane. Là, ils mettent un tampon et ils envoient les green cards et les cartes de sécurité sociale.
Donc là, vous êtes en mai 2019.
On est en mai 2019. Donc, nous, on a laissé... avec le retard administratif qu'ils avaient, on a reçu nos passeports fin juin 2019. Ouais, on a attendu un mois et demi.
Oh là là. Le stress aussi, parce que de se dire, est-ce qu'ils ont pas
Exactement.
Perdu, est-ce qu'il y a pas
Il
n'y
a
souci
pas possibilité de communiquer avec eux, même si on appelle, si on envoie des mails, il n'y a pas de réponse, en fait. Il faut attendre.
Je me souviens que pour notre visa, pareil, on avait dû attendre, enfin, ils nous avaient pris nos passeports à l'ambassade et nous les renvoyer, mais en 48 heures, on les avait reçus, en fait.
Ouais, parce qu'ils avaient beaucoup de retard. On était nombreux à passer l'entretien le même jour. Et donc, c'est l'explication
D'accord.
qu'ils nous ont donnée, pourquoi c'était
ouais. Par la suite.
Et donc, du coup,
mai 2010,
on
pouvait pas prendre de billet d'avion
avant d'avoir le passeport et d'avoir le visa dessus.
C'est ça.
Donc, on a attendu, on a laissé passer l'été et on est parti en septembre 2019, valider ce premier passage. On est parti.
Ah, c'est ça, en fait. Une fois que vous avez ce visa-là, donc fin juin, vous êtes parti en septembre. Vous pouvez re-rentrer en France, vous n'êtes pas obligé de rester définitivement
Alors,
sur
y a,
le territoire.
Il y a des gens qui préfèrent rester sur le territoire. Alors, notamment, par exemple, les gens qui viennent d'un pays pauvre, qui n'ont pas les moyens de faire des allers-retours comme ça, sans tirer au sort, eux, ils arrivent, ils restent directement sur le territoire. Ils peuvent, en fait. Une fois qu'on passe la douane, la green card, elle est envoyée... Les cartes de sécurité sociale sont envoyées dans les 15 jours qui suivent. Et les green cards, c'est aléatoire. C'est entre 15 jours et 3 mois, l'envoi.
Ah oui, parce qu'en fait, vous avez ce fameux SSN
exactement.
Aux États-Unis. Vous n'avez pas besoin de faire la demande. C'est directement fait.
On remplit le dossier quand on passe à l'ambassade.
Vous, en arrivant en septembre, c'était plus un voyage
de
reconnaissance.
C'est un voyage de prospection parce qu'en fait, avec la green card, on ne dépend pas d'une entreprise. Donc, on a ce choix... génial de pouvoir choisir où on veut habiter et pouvoir prospecter vraiment où on veut, en fait. Donc, nous, on avait établi des critères, enfin, qui nous correspondaient par rapport au climat, la qualité de vie, le job, également le décalage horaire pour mon boulot, parce que moi, j'ai quand même pas mal de clients français. Donc, du coup, on avait établi un choix sur le papier. On s'était centré sur la Caroline du Nord, en fait, sur Charlotte. Il semblait répondre à tous nos critères. Et finalement, en fait, une fois sur place...
Nature,
ville, coût de la vie qui est quand même assez bien. Beaucoup moins cher que dans des grandes villes, mais quand même avec pas mal d'opportunités de job pour mon mari. Et en fait, une fois sur place, mon mari a pas eu du tout de coup de cœur. Ça a pas fonctionné.
C'est vrai?
Moi, oui. Ça m'a beaucoup plu. En fait, c'est vrai que c'est une ville qui est hyper agréable. Mais c'est une grande ville américaine où il n'y a pas vraiment de centre-ville, tout est très éloigné et ça a pas matché pour lui.
C'est-à-dire que c'est une grande ville, mais sans de petits
centres-villes.
Sans
en fait,
des
y a
micros.
Pas de Downtown,
oui.
Y a deux, trois rues et il n'y a pas de transport en commun.
Oui, c'est ça. C'est une grande ville, mais sans le côté petite ville à l'intérieur. Par exemple, New York, c'est vrai que c'est une immense ville, c'est énorme. Enfin, il y a énormément de millions d'habitants, on le sait. Mais chaque quartier, c'est limite une petite ville.
On n'a pas retrouvé la vie de quartier qu'on recherchait, en fait. Donc, on a réorienté on est remonté plus au nord vers le New Jersey, en fait.
D'accord. Donc, vous allez vous baser dans le New Jersey.
Oui.
D'accord. Et là, en ce moment, vous êtes où?
Alors, on est arrivé, du coup, en janvier, le 12 janvier, à New York.
Ah oui, parce que du coup, je fais des bonds dans le temps, on va perdre nos auditeurs. En septembre,
c'est un voyage administratif, en fait. En septembre, c'était vraiment pour déclencher l'envoi des green cards, ouvrir le compte bancaire. C'était vraiment administratif.
D'accord.
On est resté qu'une semaine, hein. C'était vraiment un voyage très, très court.
Ah oui,
et les enfants devaient être avec nous. On avait obligé en fait de passer la douane avec les enfants. Sinon, ça déclenche pas leur green card. Donc, elles étaient avec nous. Donc, c'est pour ça aussi qu'on est parti sur un court séjour parce que elles étaient à l'école. Et, et ensuite, en octobre, novembre, décembre, on a vidé la maison, fait tout le processus administratif d'un départ, en fait, trouver une assurance santé, clôturer les comptes, enfin. Et on a fait le choix également de partir sans conteneur. Donc on n'a pas fait de déménagement. On est parti avec seulement 8 valises. Donc, c'est vrai que c'est un gros tri de notre vie.
Et pourquoi on fait ce choix-là?
Déjà, financièrement, parce qu'un conteneur c'est très cher.
Ouais, c'est très cher.
Nous on part vraiment sans contrat d'expat, donc on n'a pas du tout ces frais-là. Ils sont entièrement à notre charge.
Ça, puis vous savez pas si vous allez trouver et si vous allez vraiment
Exactement.
Vous y plaire. Il y a quand même le côté.
Donc on a laissé par exemple les objets les plus émotionnels. Les livres, notamment, on les a laissés chez mes parents, mais on est parti qu'avec 8 valises. Donc, c'est vrai que ça a été un processus qui est assez... émotionnellement, ça nous a beaucoup impliqué, en fait, de séparer toutes nos affaires.
Ça a dû être
c'est très libérateur, mais sur le moment, c'est assez dur de tout laisser.
Ouais, j'imagine, ouais. Nous, on est parti avec un conteneur qu'on a, sans mentir, on l'a rempli. C'était vraiment impressionnant. Je crois qu'il y avait 147 cartons énormes, avec les gros cartons de meubles aussi compris. Et quand on a réinstallé toutes nos affaires dans notre appartement, on s'est rendu compte que il y a plein de choses qu'on n'utilisait pas, en fait. Comme on avait le conteneur qui était payé par l'entreprise de mon mari, on a profité. Mais au final, depuis un an qu'on a installé, tous les mois, je refais du tri en me disant, mais ça fait un an que je l'ai pas utilisé, bon bah ça va servir à quelqu'un, ça sert à rien de le garder et de s'encombrer inutilement, en fait.
C'est la démarche qu'on
a eue. C'est dur de faire le choix.
Mais c'est très dur. C'est vraiment très dur.
Ouais.
Et puis, surtout pour notre aînée, en fait, ça a été le plus dur, c'est pour notre fille aînée. Parce qu'elle, à 5 ans, elle avait quand même un attachement à certains objets. Et en fait, de nous quatre, c'est elle qui l'a le plus mal vécu.
Comment vous avez fait pour la préparer, du coup? Parce qu'une fois qu'elle avait suivi tout le processus, mais est-ce qu'elle avait vraiment pris conscience de ce que ça voulait dire partir?
Je sais pas si elle a vraiment pris conscience. Elle l'a commencé quand on a vidé la maison. Parce que là, elle voyait bien que les objets partaient et que... Enfin, ça a été assez dur. On a lu, il y a très peu de littérature jeunesse sur l'expatriation. Il y en a beaucoup destinés aux parents, mais vraiment de livres pour enfants. On en a trouvé qu'un seul qui s'appelle Ulysse Petit Expat. Donc on lui a lu ça, où il explique toutes les étapes de, il va falloir dire au revoir à papy, mamie elle va pleurer, on va faire des cartons, ça va être dur au départ, tu vas pas parler la même langue, tu vas pas comprendre. Donc, c'est un livre
que c'est normal d'être,
exactement,
d'être perturbé. Mais que ça va
bien
se passer
à la fin,
la
il finit sur une note super positive où le petit enfant devient bilingue et il s'est fait des copains et tout se passe bien. Il a deux pays dans son cœur.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est le seul livre qu'on a trouvé, donc on lui a lu ce livre. Et on a aussi il y a une chaîne YouTube que je regardais moi en tant que perso et que je lui ai montré certaines vidéos. C'est la chaîne de Cécile Nessila, où elle fait des vidéos très spécifiques sur l'école américaine, sur comment ça se passe, sur les magasins. Donc c'est vrai que je lui ai fait regarder ces vidéos-là pour qu'elle se projette, qu'elle voie, qu'elle voie que c'est une petite fille française qui a fait le même chemin qu'elle et tout. C'est vrai que ça l'a bien aidé, ça.
Tout à fait, elle a pu s'identifier à quelqu'un
En fait. Elle a pas encore compris les distances géographiques, donc elle croit vraiment que la petite fille de la vidéo habite juste à côté, alors que la Californie, c'est à l'opposé.
c'est ça. Il y a encore 6 heures de vol.
Ça va être un autre débat quand on va arriver sur place et qu'elle va vouloir voir vraiment la petite fille.
Du coup, Cécile, qui est passée dans le podcast aussi, si tu nous entends, il y a une petite copine pour
Exactement.
Lana.
Mais c'est vrai que puis on en a beaucoup discuté avec elle. On a beaucoup, on a été transparent en lui disant, nous aussi, ça nous rend triste. On n'a pas caché que, on lui a pas dit, ça va être facile, ça va aller. On lui a vraiment dit, bah non, nous, pour nous aussi, c'est dur, tu vois. Nous aussi, certains objets, on pleure, enfin, pour dire au revoir aussi. Donc, je pense que ça l'a apaisé aussi. Et
je pense qu'il n'y a pas de bonne, mauvaise solution, que tout parent fait vraiment ce qu'il peut pour préparer son enfant, mais que voilà, la discussion, le dialogue, c'est vraiment ce qui est le plus important, et de pas cacher ses émotions, en fait, de même de dire à un enfant de 4 ans que papa et maman sont tristes aussi de quitter leur pays, de quitter la famille, les amis, et que ça va être une grosse étape de s'habituer à un nouveau pays.
C'était une grosse étape, et puis... la difficulté qu'on a eue, nous, c'est que nous, on était moins disponibles personnellement parce qu'on était aux prises avec nos émotions, avec ce départ, comment ça nous impliquait. Et elle, pour elle, c'était dur de nous voir moins disponibles pour elle. Ça, c'était, je pense, la partie la plus dure pour elle. C'est que nous, on soit accaparés dans l'administratif, dans les cartons, dans les choses comme ça, et moins disponibles pour elle.
Pas forcément moins à l'écoute, mais en tout cas, moins... Voilà.
Après, pour la petite, elle... La plus petite, elle a su son cours, elle nous a suivis, elle avait pas d'appréhension, elle a suivi le cours, en fait.
Parce qu'elles ont quel âge, là, maintenant? Elles ont 7, à 3 et 5 ans, maintenant,
donc,
là.
La petite de 3 ans, elle suit, en fait. Elle a pas... Il y avait rien qui la dérangeait ou la perturbait du moment qu'elle avait ses petites affaires dans sa valise, ça allait. Elle était contente.
C'est ça, sa grande sœur et ses parents, et ça va, en fait.
Pour le moment,
tout va bien. Bon, super.
On est arrivé.
Et donc,
le 12 janvier.
J'allais dire, vous rangez, enfin, vous faites toutes les démarches pour vous séparer de votre maison, de mettre en stock, j'ai pas le mot, mince.
Voilà, stocker chez vos parents,
De stocker, stocker vos affaires chez vos parents. Et, faut prendre le billet d'avion. Donc,
c'est
parti.
Ça, c'est un choix qu'on a fait, en fait, quand on en discute avec d'autres gagnants de la Green Card, il y a eu deux processus à chaque fois. C'est soit on attend de trouver un boulot à distance et de partir une fois que le boulot est signé, soit on fait le choix comme nous de partir sans contrat de travail signé et puis de voir sur place. Donc c'est vrai que
parce qu'une fois que vous avez passé la douane la première fois en septembre pour lancer vraiment les papiers de la Green Card, vous êtes rentré en France. Quand vous revenez une seconde fois, vous avez eu votre Green Card fois?
La bonne est envoyée par courrier à une adresse postale aux US. Donc nous, elle était envoyée chez un ami à nous qui habite à New York. Et donc, du coup, c'est lui qui a reçu tous les papiers administratifs. Il nous les avait juste pris en photo. Nous, on voulait pas prendre le risque de les faire envoyer par FedEx et qu'ils soient perdus. Parce que du coup, s'ils sont perdus, c'est vraiment très très compliqué de les réavoir, en fait.
Oui, j'imagine. Donc là, ils vous attendaient sagement
à
New York.
On les a eu pour la première fois entre les mains. C'est vrai que ça fait une petite émotion de toucher le papier, enfin pas le papier, la carte, mais du coup, c'est que c'était à ce près de ce moment-là.
Parce que du coup, c'est vraiment une carte comme une carte carte bleue,
c'est le même format
dire,
qu'une carte bleue, avec plastifié entre la carte bleue et la carte d'identité.
D'accord. Et le visa qui est sur votre passeport se termine et vous n'avez pas besoin de le faire annuler.
En fait, expiré le visa, vu que c'est un visa de 6 mois, de mai à octobre, il était déjà expiré, en fait.
Ah oui, c'est pour ça que vous êtes venu en septembre, en fait.
On avait vraiment cette deadline à respecter administrativement. Et après...
Mais donc du coup... Je te coupe, mais c'est ce qui veut dire que le visa a commencé le jour de votre rendez-vous à l'ambassade, mais vous n'avez reçu vos passeports qu'un mois et demi après, donc déjà il y a un mois et demi en moins sur... D'accord, j'ai pas percuté tout à l'heure.
Il y a une histoire également de visa, mais également il faut que les radios thoraxiques qu'on a passées soient de moins de 6 mois quand on passe la douane la première fois. Histoire qu'on prouve qu'on est toujours pas malade.
Oui, toujours pas contagieux.
C'est ça.
D'accord.
Donc voilà. Et donc en janvier, on a eu enfin tous les papiers en main, la carte de sécurité sociale, la green card. Et c'est là où on se rend compte que, on a de la chance que le processus, on sait que c'est un sésame que les expats américains attendent pendant longtemps et que nous, on l'a eu, entre guillemets, assez facilement, en fait. Ça, on en a conscience.
Oui, mais comme tu disais tout à l'heure, vous l'avez
provoqué
en
mais
fait,
c'est vrai que
cette
pour
chance.
Des expats qui habitent aux États-Unis, qui attendent cette green card pendant longtemps, on a eu des retours où on sentait que c'était quelque chose qu'on devait être vraiment très reconnaissant parce que eux l'avaient attendu très longtemps. Il y a eu certains forums d'expats, où on a senti cette pression-là.
D'accord. Alors c'est vrai que pour l'instant on n'en parle pas puisqu'on a un visa de 5 ans. On ne sait pas si on restera par la suite. On ne sait pas si on fera une demande de green card. On a quand même joué en octobre en se disant pourquoi pas si jamais on a vraiment envie de rester, de se lancer dans le processus. Maintenant, je sais pas, en ayant déjà un visa, si on sera admissible.
Aussi, je pense que vous avez les mêmes. Ouais. Ouais,
que ouais. N'importe qui, peut-être. Peut-être. Mais donc, du coup, c'est vrai que j'entends effectivement des expats qui en font la demande personnelle ou par l'entreprise d'un des conjoints. Et ça a l'air d'être effectivement très long à obtenir.
Et surtout, assez trouver compliqué. Une entreprise sponsor. Oui. Je pense qu'en ce moment, c'est ça qui est le plus dur.
Ouais, sans doute. Et donc, du coup, bah voilà, vous voilà arrivé le 12 janvier. Donc, ça fait même pas un mois que vous êtes arrivé aux US.
Les premiers jours, en fait, on a visité New York. Clairement, on a fait les touristes. Mon mari connaissait pas cette ville, donc du coup on a fait les touristes et c'est vrai que ça nous a fait du bien aussi de se poser après tout ça faisait un mois et demi qu'on avait plus de maison, donc on passait de famille en famille et c'est de se retrouver tous les quatre et de visiter comme en vacances entre guillemets. Ça a été assez chouette.
Exactement. C'est ça, de prendre le temps
de découvrir la ville, puis c'est une ville qui est assez fun,
ouais,
qui est assez dynamique, qui a beaucoup de choses à faire. Et ensuite, on est parti au Canada. Mon beau-frère, le frère de mon mari, habite au Canada. Donc, on est parti. Là, on est chez lui actuellement, d'accord, en fait, pour se poser et puis le revoir, parce que lui, en tant qu'expat, ça faisait très longtemps qu'on le voyait pas. Donc, se retrouver en famille et puis voir ce qui va se passer ensuite. Et mon mari est toujours en processus de recrutement, donc il postule en fait.
Donc, tant qu'il n'a pas trouvé, vous ne revenez pas sur le territoire. Non, des USA,
on revient la semaine prochaine sur le territoire américain pour commencer toute l'étape des entretiens et d'être sur place en fait, commencer à visiter les villes, visiter des maisons, vraiment commencer le processus pour de vrai.
Vous allez vous baser où du coup ? Et vous avez déjà une idée un petit peu de ce que vous recherchez, de comment ça va se passer, vos filles les mettre en école française, en école américaine,
par rapport à l'école publique. Des filles, sur ça, on était d'accord dès le départ. En fait, nous, on voulait vraiment les mettre dans l'école publique américaine. Elles aient cette chance, en fait, d'être bilingues directement, d'être immergées et également aussi parce qu'on aime beaucoup la pédagogie américaine. Je trouve que l'école américaine est assez ludique. C'est vraiment une, c'est assez fun, en fait. Ils présentent les choses de manière beaucoup plus joyeuse qu'en France. Et également parce que financièrement, l'école française aux États-Unis, c'est très très cher. Donc dans notre situation où il n'y a pas de contrat d'entreprise qui prenne en charge ces frais scolaires, non, nous, on ne pourrait pas.
Vous pourrez peut-être les mettre dans une école avec un dual programme qui propose un français anglais.
Il y a pas mal de programmes d'immersion en français qui sont mis en place.
Je crois qu'elle a pour qu'elles puissent garder un peu leur langue.
Et après, moi, je me suis dit que j'allais leur apprendre aussi à la maison, en fait. Surtout quand elles sont petites,
perdre,
comme ça.
Tout à fait.
Jusqu'au collège, je pense que c'est accessible de leur maintenir le français à la maison en plus.
Oui, en petit jeu, sans réelle contrainte, mais voilà, de prendre plaisir à apprendre aussi leur langue maternelle, qui se perd assez vite avec des petits qui sont des éponges.
Petite,
à
3 ans, je pense qu'elle, c'est vrai qu'elle commence à bien parler, mais elle est pas acquise, elle sait pas écrire, elle sait pas lire. Donc c'est vrai que pour elle, ça va être plus dur de maintenir le français, mais on s'est donné une règle. Je sais pas si on la tiendra sur la distance, on verra, que à la maison, on parle que français. Il y a pas d'anglais, elle ne parle pas en anglais.
Pas de mix, voilà. Et est-ce que le choix de cet état, du New Jersey, ça, c'est aussi, vous l'avez choisi pour le coût de la vie qui est un peu moins cher que dans l'état de New York, et surtout à New York City, ou pour d'autres raisons?
Alors,
plus ou moins personnelles.
Alors, il y a critères, c'est que mon mari a pas mal d'opportunités de travail. Il y a pas mal d'entreprises qui recrutent dans cette région-là. Également parce que... son fils va venir pour les vacances, donc c'est vrai que les vols Paris-New York sont quand même beaucoup moins chers que dans certaines villes. Par exemple, quand on était à Charlotte, les vols Paris-Charlotte étaient beaucoup plus chers. Donc ça, c'est vrai qu'on était du 800 euros aller-retour pour Paris-Charlotte.
D'accord.
New York,
ah oui, alors que
on peut trouver à 400 euros l'aller-retour en fait.
Tout à fait, oui. Et puis encore moins cher des fois pour l'aéroport de Newark, qui, quand on cherche des vols pour New York, souvent on nous propose l'aéroport de Newark selon où on se situe.
Donc
en
ça,
fait.
Ça a été un critère. Et puis moi aussi, j'avais des opportunités professionnelles par rapport à un de mes clients sur New York, où je devais être proche de New York pour pouvoir assurer certains rendez-vous. Donc c'était important ces critères-là. Et puis moi, je voulais pas. On habitait Paris intramuros pendant 4 ans, et avec les enfants, je voulais pas retrouver cette cette ville où c'est pas facile avec les enfants de prendre le métro, de porter les poussettes, les choses comme ça. Donc c'est vrai que le New Jersey, c'était aussi pouvoir avoir un jardin pour la première fois, ce genre de choses.
Voilà, avoir la voiture pour se déplacer.
On va acheter notre première voiture. Ça, c'est une grande étape aussi.
Ah oui, non, parce qu'on n'avait pas de voiture, du coup, à Paris.
On a toujours vécu en région, enfin, soit en région nantaise ou en région parisienne, mais on n'avait pas besoin de voiture.
Mm-hmm. Va falloir, du coup, repasser le permis.
Oui, oui, je crois qu'on a...
Enfin, du coup...
Le code. Je crois qu'on a que le code à passer.
Oui, dans New Jersey, c'est que le code, qui est apparemment beaucoup plus dur qu'à New York. Oui, et par contre, à New York, nous devons repasser le code et la conduite. Non, en fait, tu peux choisir... Alors, je ne pense pas qu'on conduise dans Manhattan. Mon mari a repassé son permis au mois de mai 2019, du coup, et il a conduit dans les quartiers assez éloignés dans Queens, où vraiment, c'est très résidentiel, où il n'y a pas de voiture, c'est... On fait un tour de 6 minutes en voiture et voilà, c'est un bloc, en fait. Alors que New Jersey, c'est juste le code.
C'est vrai qu'on ne s'est pas encore penché sur ce détail administratif encore. Parce que je crois que nos permis français sont encore valables 3 mois.
Oui, je crois que c'est 6 mois en tout, une fois qu'on arrive sur le territoire.
C'est notre prochaine étape administrative. Encore une.
Et après, vous serez presque rodés. Et donc, du coup... C'est la grande, ça y est, la grande vie qui commence.
Là, c'est vrai qu'on est à la porte de faire tout ça. Enfin, ça fait longtemps qu'on le prépare, qu'on regarde quand même le coût de la vie, visiter les maisons. Mais c'est vrai qu'on a hâte, là. On commence à être vraiment impatient de se poser, de voir vraiment comment ça va se passer la vie, de se réajuster.
Et puis d'aménager votre intérieur et de vous retrouver vraiment tous les quatre dans un nouveau concours, en fait.
Nos filles commencent à réclamer d'avoir leur chambre, de pouvoir ranger leurs jouets.
Ouais. Donc oui, comme tu disais tout à l'heure, vous êtes partie avec 8 valises et dedans, du coup, le nécessaire pour débuter ou juste qui va être vêtements, livres et quelques jeux.
On a réservé 2 valises où elles ont exclusivement mis leurs jeux et leurs objets qu'elles voulaient garder. Donc il y a 2 valises qui ont été vraiment pour elles, chacune la leur. Et ensuite on avait les 6 autres, c'était des valises de vêtements et puis moi j'ai gardé quand même quelques cadres, quelques objets de décoration que je trouvais importants pour faire la transition et se sentir chez soi en fait directement, mais sinon on n'a rien emmené d'autre.
Bien sûr. D'accord, donc vraiment c'est un nouveau, c'est complètement un nouveau départ,
comme les vrais immigrés de l'époque.
Je trouve que oui, c'est ça, avec juste leurs valises.
La réflexion qu'on s'est fait, on a visité Ellis Island avec le musée de l'immigration et c'était vraiment, on s'est senti exactement pareil d'arriver comme ça, avec seulement nos valises.
Oui, c'est vrai. Et du coup, j'ai une petite question qui vous concerne vous et qui concernera sans doute des gens qui souhaiteraient se lancer dans le processus de la green card. Qu'est-ce que tu conseillerais à ces personnes-là? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez faites, tu te dis, on n'aurait pas dû faire comme ça, ou qu'on recommanderait de faire justement?
La première chose, ce serait de, nous, ce qu'on nous a conseillé, qui a l'air d'avoir fonctionné, c'est de faire les photos chez un photographe pour l'application, pour la candidature.
Ah oui. Et pas de les faire devant un mur blanc chez soi.
Au moins on est sûr que ça répond à tous les critères, qu'elles seront pas enlevées, enfin que la candidature sera pas éliminée juste éliminée. Pour ça. Et ensuite de faire des checklists de tous les papiers, parce que c'est un nombre de papiers assez conséquent qu'ils nous demandent, de traduire aussi. Il y a des traductions de certains documents officiels, donc de bien les demander, d'être assez à jour sur ça et d'être assez strict, et aussi de prévoir une épargne nécessaire, parce que c'est un processus qui est assez coûteux.
Oui, on en parlait tout à l'heure. C'est vraiment, ça fait beaucoup de frais à débourser.
Le processus est assez long, c'est par petits bouts. Je pense qu'au total, la procédure juste purement administrative nous a coûté quand même dans les 6000 euros, je pense, environ.
Ouais. Ah oui, quand même.
Il y a eu à peu près.
Donc oui, ce n'est pas 6000 euros à sortir d'un coup, mais c'est quand même une sacrée somme au final.
Plus après les voyages pour venir, les allers-retours. C'est vrai que c'est et l'épargne nécessaire qu'il faut sur place maintenant, parce que vu que nous on dépend pas d'un contrat, il faut qu'on paye notre sécurité, notre assurance santé nous-mêmes.
Bien sûr, assurance santé.
Surtout qu'on a notre plus jeune fille est épileptique, donc c'est vrai que ça a fait une assurance santé qui est assez conséquente à payer. Et puis de prévoir aussi les allers-retours pour mon beau-fils. C'est vrai que ça, on a épargné. Ça fait 2-3 ans qu'on épargne exclusivement pour ce projet-là et puis que on, c'est pas des sacrifices parce qu'on savait pourquoi on le faisait, mais on partait pas en vacances, on faisait attention au restaurant, on a fait des choix de vie en fonction de ce projet-là et c'est vrai que ça a été une...
À partir du moment où vous avez joué,
un petit peu
avant
de jouer, parce qu'on avait ce projet-là de partir à l'étranger, donc on avait commencé avant, mais une fois qu'on a été sélectionné, c'est vrai que on l'a vraiment enclenché de manière sérieuse et tous les mois, en fait, on a épargné et on a fait aussi quelque chose qu'on a mis en place, c'est qu'on est devenu famille d'accueil pour des étudiants étrangers. En fait, on a fait ça pendant 2 ans et demi à Paris. Et donc, ça a été une belle expérience humaine, mais ça nous a aussi permis de constituer notre épargne en plus. C'est vrai que ça a été en aide pour ça.
Ah, ouais, c'est un bon parcours,
c'était une
belle
expérience. Puis, c'est des gens on a eu beaucoup d'étudiants de nationalités différentes qui venaient à la maison pendant 1 semaine à 2 mois et dont certains, on reste toujours en contact, qu'on a revu récemment et puis dont certains habitent aux États-Unis, qu'on espère les revoir prochainement.
Ah, super.
Mais c'est vrai que c'est une chouette expérience, puis ça a préparé les enfants en fait à avoir d'autres cultures, d'autres langues. Ça a été assez riche.
D'accord. Alors du coup, on ne peut pas encore vous poser la question de quels sont les lieux incontournables pour vous.
C'est un endroit pas en particulier, mais c'est un type d'endroit que je trouve absolument génial aux États-Unis, c'est les Children Museum. C'est en fait ils reproduisent comme une mini ville à hauteur d'enfants et je trouve ce concept génial. Ils peuvent toucher à tout, ils peuvent essayer le restaurant, la banque, la voiture de police. C'est vraiment formidable.
C'est vrai que c'est vraiment bien fait, oui. Oui. Et je crois qu'il y en a dans toutes les grandes villes.
On avait fait un voyage avant, quand les filles étaient toutes petites, en Louisiane, même dans les toutes petites villes de Louisiane, il y en avait, en fait. Et c'est absolument un concept. Je trouve c'est dommage qu'on n'ait pas ça en France. Il y a peut-être un business à lancer. Mais
alors, il y a à la Villette, et en France, il y a le côté avec les jeux d'eau où les enfants peuvent toucher.
Mais c'est vrai que c'est vraiment vie quotidienne où ils testent les métiers. C'est moins fourni que ce qu'on peut trouver même dans les toutes petites villes américaines. Ça, c'est vraiment... c'est un endroit que... En tant que parent, si vous avez des vacances à prévoir aux États-Unis, c'est un chouette lieu de visite, en fait.
C'est ça, en fait, qu'on penserait... on se dit souvent que partir avec des enfants bas âge, ça va être compliqué. Enfin, je généralise peut-être. mais par contre, c'est vrai qu'il y a des activités aux États-Unis qui sont... beaucoup d'activités sont faites pour que les enfants participent et on peut les emmener quasiment partout.
Je trouve que les gens, les adultes, ont une relation envers les enfants très positive. Ils sont tout de suite, ils se mettent à la hauteur, ils leur parlent gentiment. Quand on va dans les restaurants, il y a toujours des chaises hautes, un endroit pour mettre la poussette, le menu enfant, les dessins, les coloriages. Dans n'importe quel restaurant, on a toujours été bien accueillis. Ce qui n'a pas toujours été le cas à Paris, Clairement, en habitant Paris intramuros, on s'est déjà fait refuser plusieurs fois au restaurant avec 3 enfants, ce qui nous est jamais arrivé aux États-Unis. En fait, je trouve que c'est un côté hyper positif aux États-Unis, c'est que l'enfant, il a une vraie place. Peut-être des fois un peu trop dans l'excès, mais en tout cas, c'est super agréable en tant que famille d'y vivre parce que tout est fait pour eux. En fait, il y a des parcs partout, il y a des playgrounds absolument partout.
Oui, c'est vrai que la vie de famille est facilement envisageable.
Elle est agréable et facile et assez sécuritaire aussi, je trouve. Peut-être pas dans toutes les villes, mais les villes qu'on a visitées, on s'est toujours senti hyper serein, en fait.
Hyper à l'aise. Bah, du coup, c'est quand même un endroit qui est accessible à tous. Donc, on va le noter dans sur notre blog et puis dans notre Mapster de trouver certains Children Museum.
Le museum super pour enfants le plus génial qu'on ait fait, c'est celui-là de Miami. Il est extraordinaire.
Ouais. Ah oui? On va le noter. On peut noter celui-ci dans notre Mapster. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
De trouver
pour
un boulot pour mon mari. Voilà.
Ah, on croise les doigts pour lui, alors.
Que l'aventure se poursuive assez sereinement et comme elle a commencé, en fait.
Merci beaucoup. On vous le souhaite. On vous souhaite que tout se passe super bien et on espère peut-être te revoir d'ici quelques mois sur le podcast pour nous raconter votre vraie installation et votre nouvelle vie. Merci beaucoup, Jenna. À bientôt. Finalement, ce ne sera pas dans le New Jersey que Jenna et sa famille se sont installées, mais à Hartford dans le Connecticut. Toute la petite famille va bien, elle prend ses marques dans leur nouvelle vie américaine.
Et oui, c'est déjà fini, c'est tout pour aujourd'hui. Mais si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster, cherchez notre compte French Expat, le podcast, tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à tous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, laissez-nous plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcast, c'est le meilleur moyen de nous aider. Je voudrais vous partager une review qui nous a été laissée par Mathilde Royan via Apple Podcast. C'est un podcast très enrichissant et motivant. Ce podcast nous donne des envies d'ailleurs, je l'écoute souvent lorsque je fais de longs trajets en voiture et le temps passe beaucoup plus vite. À écouter sans modération, bravo à toute l'équipe. Merci à toi Mathilde pour cette adorable review qui nous motive à continuer cette aventure. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et LinkedIn @FrenchExpat le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple. Direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à bientôt.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt!